Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je reçois Amélie Deschamps, nutritionniste sportive, et on jase de la situation actuelle, on jase de l'importance de se faire plaisir et on jase surtout de végétarisme et on prend les questions du public. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Merci beaucoup. Amélie, merci beaucoup de prendre de ton temps aujourd'hui pour faire ça avec moi.
Mais ça fait plaisir.
J'apprécie. Aujourd'hui, on va parler de nutrition sportive. Puis, j'avais vraiment hâte de parler de ça parce que c'est quand même quelque chose qui nous touche toutes.
Ouais.
Puis, il y a beaucoup de questionnements, puis ça change tout le temps aussi, là. Fait que, premièrement, je veux qu'on parle parce que là, au moment du tournage, qu'on tourne cet épisode-là, on est encore en confinement. Je sais pas si quand il va sortir, on va être déconfiné, mais là, ça commence. On voit des choses qui ouvrent tranquillement. Mais on va quand même parler un petit peu de la situation actuelle. Puis j'aimerais qu'on commence avec... souvent, on voit les spécialistes dire que, bon, tel aliment, telle chose, font booster le système immunitaire pour être moins malade. Mais là, j'aimerais ça qu'on jase un petit peu de qu'est-ce que tu penses de ça.
Oui. En fait, j'adore cette question-là. Ça a été un débat depuis 10 semaines, genre.
Ouais.
En tout cas, moi, je suis confinée depuis le 15 mars. On en parle depuis le 15 mars. Puis je te dirais, il y a beaucoup de choses qui sont sorties à ce sujet-là. Ce que j'ai envie de dire pour commencer, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi avec la quarantaine. C'est sûr que moi aussi, mon volume de clients a diminué beaucoup. Avec l'annulation des événements sportifs, il y en a beaucoup qui se remettent en question aussi sur leurs objectifs nutritionnels. C'est tout à fait normal. Fait que c'est sûr qu'il faut se réinventer. Puis, je vise absolument personne, puis je pense que c'est le bon réflexe à faire, mais on s'est tous un peu réinventé en essayant de trouver la façon d'aller accrocher nos clients pour qu'on garde la business, pour qu'on reste actif en entreprise. Fait qu'il y a eu beaucoup d'utilisation de justement le coronavirus pour justement la vente de suppléments et autres.
Ouais.
Pour booster le métabolisme. Ce qu'il faut savoir, là, c'est qu'en fait, il n'y a absolument aucune donnée scientifique qui prouve qu'il y a quelque chose qui peut booster le métabolisme, qui peut nous protéger contre la COVID-19. Pourquoi? Ben, c'est qu'en fait, si on a une alimentation qui est équilibrée à la base, on a absolument tout ce qu'on a besoin en termes de vitamines minéraux pour avoir un bon système immunitaire. Donc, il n'y a rien qui va venir. Tu sais, il n'y a pas de 150% pour le système immunitaire. C'est un système immunitaire qui fonctionne à 100% ou moins. Si le système immunitaire fonctionne moins bien, ben à ce moment-là, c'est qu'il y a parfois une maladie auto-immune, mais il peut avoir une alimentation qui est moins optimale aussi. Fait, je te dirais, il n'y a rien qui peut le faire. Par contre, je pense que de bien s'alimenter malgré tout pendant la quarantaine, ça reste la clé. Même si on se sent peut-être un peu plus paresseux pour la cuisine, on a envie peut-être aussi d'encourager l'économie locale puis de
d'encourager
la pizzeria au coin, parce que moi, j'ai une pizzeria au coin. il faut le faire. Je pense que c'est important de se gâter, mais il faut faire attention aussi de bien manger pour justement garder le système immunitaire. Mais bref, il n'y a rien.
Mais ça m'amène à l'autre question, justement. Tu parlais d'aller comme encourager local puis de manger, mettons, la pizza du coin. Mais ça m'amène à comment on pourrait garder le moral dans la situation qu'on vit présentement.
Oui, méchante bonne question. Comment on peut garder le moral? Bien, en fait, je te dirais, là, il faut faire les choses qu'on aime. Ça, c'est clair. Je ne sais pas si ça dépend des gens aussi qui travaillent, qui ne travaillent pas. Si c'est de... Tu sais, entre autres, là, moi, j'adore la lecture, mais quand je travaille à temps plein... J'ai pas le temps de lire. Fait que de ressortir un livre, j'ai commandé des livres sur Indigo aussi. Fait que d'aller chercher une passion peut-être qu'on a tendance à mettre de côté depuis une couple de mois ou une couple d'années, je pense que c'est quelque chose pour garder le moral. De se trouver une nouvelle activité aussi.
Mm-hmm.
Puis je lançais à la blague cette semaine, tu sais, il a fait beau la semaine dernière.
Mm-hmm.
Puis, moi, évidemment, j'ai sorti mon vélo, mais j'ai vu énormément de gens en patin à roues alignées. Mais je n'avais pas vu de patin à roues alignées depuis des semaines.
C'est vrai, c'est vrai.
Il y en a qui ont redécouvert à vous, hein?
C'est vrai, oui. Mais toi, à la base, tu es une triathlète, hein?
Oui, c'est ça. Fait que, à la base, oui. C'est mon sport principal. Là. Je fais du triathlon.
Okay, okay.
Ce qui m'amène un peu aussi à avoir une spécialité en triathlon, en nutrition sportive. Bien entendu, avec le bouche à oreille, je me développe une spécialité dans d'autres choses aussi, là, entre autres dans tout ce qui est musculation. Mais À la base, c'est ça mon dada, ouais.
Fait que pour garder le moral, dans le fond, c'est de renouer un petit peu avec ce qu'on avait délaissé, avec le travail à temps plein, comme lire. Ça peut même être méditer aussi.
Oui, tout à fait. Tu sais, gérer le stress aussi, ça l'aide à garder le moral, je pense.
Ouais,
là.
Ouais, c'est
j'ai vu beaucoup de gens faire du yoga, fait que je pense que ça en est une excellente façon. Puis je dis souvent à mes clients, ça a été vraiment un sujet récurrent dans les dernières semaines, mais c'est correct de se faire plaisir avec la nourriture aussi. Je pense que ça nous aide à garder le moral. Puis autant que je disais tout à l'heure qu'il faut continuer à bien s'alimenter pour se garder en bonne forme, avoir un système immunitaire fort. Je pense que si c'est pas une soirée par-ci par-là d'aller chercher des beignes chez Krispy Kreme ou de se commander de la pizza. On a mangé des sushis nous autres la semaine passée. Fait que de se faire plaisir avec des aliments qu'on aime, ça aide à garder le moral aussi.
Comme tu dis.
Manger en FaceTime avec des amis.
Ouais, c'est vrai. On voit souvent de ça, c'est rendu fou là, ce qui arrive en ce moment. Les parties de famille se font par ordi. Puis...
Il n'y aura plus jamais d'excuses pour parler dans un party de famille.
C'est vrai. Mais se faire plaisir, là, c'est pas non plus trop souvent.
Exactement.
C'est pas comme, oui, OK, c'est correct, aller manger une pizza, on va dire. Je prends l'exemple de la pizza, mais ça peut être n'importe quoi. Puis à chaque jour, dans le fond, parce qu'on a de besoin, tu sais, dans le fond... Faut pas non plus, je pense que faut pas tu y ailles trop non plus. Faut quand même que tu restes un peu que ça fasse du bien, puis qu'après tu tournes la page, puis que tu continues où tu étais, tu sais.
Oui, mais j'aime bien parler de la règle du 80-20. Donc, on s'alimente bien 80% du temps. On fait des choix qui sont sains pour notre esprit, mais pour notre corps aussi. Puis 20% du temps, on va se faire plaisir, là, que ce soit avec. Une crème glacée, là, c'est le temps, il fait super beau, que ce soit avec, oui, tu parles de pizza, mais une fois de temps en temps, mais d'avoir cet aspect-là du 80-20 dans mon quotidien ou dans ma journée, je pense que c'est...
Mais c'est un bon principe, ça, pour vrai. Écoute, je le cacherai pas, moi, j'ai mon calepin de notes, puis je prends des notes aussi en même temps, là, parce que j'apprends en même temps que vous.
C'est ça, l'alimentation équilibrée. Tu sais, manger 100% parfait, ça n'existe pas, là, puis c'est... Si ça existe, mais c'est pas équilibré, là. Il y a quelque chose qui...
C'est ça, mais tu penses...
C'est pas mieux, là.
C'est ça, mais tu penses-tu qu'une alimentation, comme on pourrait dire, 100% tout le temps, strict, ça peut permettre de virer fou? Tu peux-tu virer fou en mangeant?
Est-ce qu'on peut virer fou? Je sais pas. Est-ce que fou, c'est le bon mot? Peut-être pas, mais clairement, je crois fermement que manger 100% bien tout le temps, c'est maintenable à court terme, pendant une semaine, pendant 3 mois. Peut-être même pendant 6 mois, mais il y a un moment donné qu'on va faire face à une situation qui va nous pousser à défaire ce 100% parfait-là.
Okay.
Tu sais, que ce soit dans un party de famille, que ce soit on s'en va dans un coin reculé de la planète pour une raison X, puis il n'y a absolument rien à part un dépanneur qui a juste des Mr. Freeze puis des sandwichs aux œufs qui sont là depuis trop longtemps. Tu sais, il y a toujours une situation qui va faire qu'on ne sera pas capable de manger parfait. C'est correct. Il faut juste apprendre à les gérer, ces situations-là.
Fait que l'idéal, c'est le 80-20. C'est un bon principe parce que je pense que pas juste dans l'alimentation, ça, 80-20, c'est un principe qu'on entend souvent. Et je pense que c'est pas trop être excessif non plus pour garder le moral en même temps, surtout en ce moment.
Mm-hmm.
Aussi, j'aimerais qu'on jase un petit peu de « OK, oui, on est confiné ». Mais les effets négatifs de ça, de monsieur, madame, tout le monde, d'être travaillé à la maison aussi, je pense que ça apporte des effets négatifs sur notre corps ou notre alimentation. Puis, je ne sais pas si tu pourrais nous...
Ben oui, mais en fait, j'ai envie d'aborder surtout l'aspect activité physique. Puis, je me suis trouvée à être plus peut-être coach de vie dans les dernières semaines de ce côté-là. Mais, tu sais, au quotidien, on est habitué de... On est toujours à la course. On se lève en panique avec le cadran. Go, 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 on mange sur le coin du comptoir. On s'en va prendre le métro. On marche qu'au métro. Après ça, on marche qu'au bureau. On est au bureau toute la journée. On revient. Go, c'est la course, aller chercher les enfants. On est tout le temps stimulé.
Ouais.
Fait que le fameux métro-boulot-dodo n'existe plus en confinement pour la majorité des gens. Ce qui fait qu'au final, c'est un petit peu... Je ne sais pas si c'est insidieux, c'est le bon mot, mais c'est un petit peu à notre insu que finalement, on est moins actif qu'on l'est quand on est au travail. Même si on a un travail généralement sédentaire, parce que c'est 500 pas qu'on fait pour aller au métro. La petite course après l'autobus, les matins pressés, bien, elle n'existe pas en confinement. Puis, si vous regardez ça, je ne sais pas si vous avez une montre intelligente. Moi, j'en ai une, je ne la porte pas en ce moment. Mais il y a des journées que j'ai fait 250 pas. Là. Ça n'a pas de bon sens. Alors qu'on vise à faire 10 000 pas dans une journée.
C'est fou.
Fait que oui, on est beaucoup moins actifs. Fait que je te dirais, pour moi, c'est le plus gros aspect négatif.
Puis il y a aussi le fait que oui, on marche moins ou quoi que ce soit, mais on mange probablement, en tout cas dans mon cas, je mange plus aussi. Tu sais, des petites collations.
C'est très variable. Ouais, il y a des gens qui mangent plus, il y a des gens qui mangent moins. Mais oui, tu sais, les repas sont un peu plus déconstruits peut-être aussi. Fait que peut-être qu'on va sauter le déjeuner parce qu'on se lève un peu plus tard. Et on va collationner quelque chose. J'ai fait des biscuits à 9h30 hier soir. Je t'avouerais que la tentation était forte de déjeuner aux biscuits. Mais oui, on est un petit peu déconstruit, puis les repas, ils sautent un peu d'un bord puis de l'autre. Fait que je pense que oui, ça peut avoir un effet qu'on mange plus puis qu'on est moins actif. Mm-hmm. Certaines personnes mangent moins et sont plus actifs aussi. Fait qu'il y en a qui ont, il y en a qui en ont profité pour faire plus de sport. Je sais que moi, j'ai beaucoup augmenté mon volume d'entraînement parce que j'ai le temps. Puis finalement, je me rends compte que j'ai gardé un peu la même routine que je fais d'habitude quand je travaille, puis même que je mange moins de collation. Fait que j'ai augmenté mon volume d'entraînement, puis je mange moins. Fait qu'au final, mon déficit calorique est peut-être un petit peu trop grand aussi. Fait que je me trouve à manquer d'énergie ou à manquer de quelque chose dans ma journée. Okay. Fait qu'il y a ça aussi, là, l'autre extrême existe aussi.
Mais justement, pendant qu'on est là-dedans, l'importance de s'écouter. Tu sais, de s'écouter pour quand... Tu sais, nécessairement, quand on va travailler, la plupart des gens, ils vont manger sur le coin de la table de quoi pour déjeuner, puis après ça, aller travailler. Mais là, ils sont à la maison. Fait que là, ils n'ont pas nécessairement faim en se levant. Mais fait que je voulais que tu nous expliques un peu l'importance de s'écouter en temps de confinement.
Oui, c'est drôle que tu dises ça parce qu'il y a beaucoup de clients qui me disent « Ben là, mon plan alimentaire, je ne suis pas capable de le suivre. » Puis en fait, c'est là le moment justement de ne pas suivre un plan alimentaire. Puis on a le temps de le faire. Tu l'as mentionné, on ne mange plus sur un coin de comptoir. On a le temps de manger assis à la table à la cuisine. Si vous habitez avec des gens, ben peut-être que vous les voyez plus. Vous passez plus d'heures de repas avec eux. Fait que c'est là le temps d'apprendre à manger selon nos signaux de faim de satiété. Fait que okay. Si je me fais une assiette puis que mon assiette, finalement, ben j'ai plus faim, il reste 4 bouchées dedans. Ben il reste pas 4 bouchées dedans, puis on met ça dans un contenant, puis on le mangera un prochain repas ou on en fera une soupe ou, tu sais, peu importe. Mais c'est correct de s'écouter. C'est le temps de travailler là-dessus sur nos signaux de faim. On mange quand on a faim, puis on arrête de manger quand on a plus faim. Puis ça a l'air très facile dit comme ça, mais c'est excessivement difficile. C'est quelque chose que je peux faire avec mes clients pendant des mois, travailler sur les signaux de faim de satiété. Si vous n'avez pas faim en vous levant, c'est correct. On est moins actif de toute façon. Fait qu'on attend jusqu'à temps qu'on ait faim. Là. Fait qu'il y a des matins qu'on peut déjeuner à 9h et des matins qu'on peut déjeuner à 6h30. Puis c'est correct aussi. Il n'y a pas de routine préétablie. Puis ça, c'est surtout pas en confinement.
Moi, ça m'apporte une question, justement. Ouais. Tu parlais de manger comme 9h, midi, peu importe, quand on a faim, mais est-ce que c'est comme une règle, tu sais, 3 repas obligatoires, tu sais, c'est-tu comme une règle, tu sais, on entend ça souvent, mais pour clarifier ça un peu, est-ce que ça prend 3 repas, tu sais, d'une journée minimum?
Et moi, j'aime pas les étiquettes alimentaires. Okay. Je déteste ça, j'aime pas les règles. Non, on n'est pas obligé de manger 3 repas par jour. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui fonctionnent bien sur un jeûne intermittent à 2 repas par jour. Je sais pas quoi dire. T'sais, j'ai envie de dire non, il ne faut pas manger 3 repas par jour nécessairement. On peut en manger 6 petits repas. L'important, c'est de manger de la façon que votre quotidien est fait, donc de s'adapter, de manger pour avoir de l'énergie dans votre journée aussi. Fait que, si on saute le déjeuner, mais que j'ai un meeting important à 8h30 le matin, puis que je m'endors comme ça n'a pas de bon sens pendant le meeting, fait qu'il faut que je me claque 3 cafés,
ouais.
Ça
ne
fonctionne pas. Là. Si on s'endort, peut-être c'est parce que le corps a besoin d'énergie.
Ben, tu vois, moi, je pratique.
À notre horaire.
C'est ça, tu vois, moi, je pratique en ce moment le jeûne intermittent. Puis, Puis je l'ai fait aussi en déjeunant, puis le même mode de vie que j'ai en ce moment. Puis pour vrai, je ne sais pas si pour moi ça marche bien, mais j'ai vraiment plus d'énergie quand je ne mange pas le matin. Je suis plus concentré, j'ai moins besoin de café pour être réveillé si j'ai un meeting ou quoi que ce soit. Fait que, tu vois, pour moi, puis des fois, je le toffe un petit peu même si j'ai faim, vers 1h, 2h de l'après-midi, puis là, je mange. Puis là, on dirait que quand j'ai mangé, là, ça retombe tout, là, tu sais. Je sais pas si c'est normal ou je le toffe trop ou quoi que ce soit.
Mais il y a deux choses pour ça, tu sais. La première, c'est à chacun sa façon de s'alimenter. C'est ça, c'est clair, net et précis. Des fois, je me fais demander, est-ce que tu recommandes des diètes précises à des gens?
Mm-hmm.
Et on va adapter ton alimentation. Des fois, oui, ça ressemble pas mal au jeûne intermittent. D'autres fois, ça ressemble pas mal à quelque chose qui est plus élevé en gras puis plus faible en glucides ou en sucre. Mais il n'y a pas de façon de s'alimenter parfaite. Il faut s'ajuster. Après ça, toi, si tu me dis, ben, j'ai de l'énergie le matin, numéro un, continue comme ça. Par contre, là, tu me dis, ben, j'ai comme un crash en après-midi. Mais là, il y a deux choses. Un, tu me dis, ben, des fois, je t'offre ma faim.
Mm-hmm.
Ça serait peut-être à essayer de voir là, si en ne t'offrant pas ta faim, si ça va mieux au niveau de ton crash en après-midi.
Okay.
Autre chose, autre peut-être, j'ai envie de dire, une conséquence ou un effet secondaire du jeûne intermittent. Tu sais, le corps s'adapte à tout. Fait que, peut-être que tu ne ressens pas nécessairement la faim le matin, mais tu es quand même actif. Donc, il y a un creux d'énergie qui se fait dans l'avant-midi. Là, après ça, ben, tu arrives au repas à l'heure du dîner ou vers 13h, 14h, tu as super faim, tu manges un repas un peu plus élaboré parce que là, yes, si je brise mon jeûne, si je mange trop de calories ou trop de glucides, clairement, tu sais, le corps est une machine bien faite. Hein? Il n'est pas capable vraiment de faire deux choses en même temps. Soit il digère, okay. Soit il bouge.
OK.
Fait que peut-être que là, le repas est un petit peu trop volumineux, okay, ou trop riche en glucides et là, ben, crash d'énergie parce qu'il faut
que je digère. OK, fait que dans le fond, la solution, ce serait de peut-être juste prendre un petit repas, le premier repas plus léger, puis un deuxième qui suit pas longtemps après, mais que dans le fond, j'aurais fait comme les deux en même temps normalement.
Ça peut être une chose à essayer, ouais. Puis l'alimentation, c'est beaucoup de l'essai-erreur. Hein? Je
dis
souvent à mes clients dans la première rencontre, on va trouver la façon qui fonctionne pour toi. Fait que oui, tu peux le tester comme ça, voir si ça va bien, mais ouais.
Mais dans quelle situation, là, je suis parti sur le jeûne intermittent, là.
Okay, parfait.
Dans quelle situation tu vas donner à un client, OK, je te conseille le jeûne intermittent? Dans quelle situation que là, c'est-tu quelqu'un qui travaille peut-être plus en bureau, moins physiquement? Parce que j'ai remarqué que plus je travaille physiquement, plus j'ai faim, tu sais, puis c'est normal. Mais c'est dans quelle situation? Ouais.
Ta question est super bonne. Y a-tu un type de gens? Pas vraiment. Il n'y a pas de type de personne à qui je vais recommander telle façon de s'alimenter. Tu sais, c'est sûr, je fais toujours une première évaluation quand je rencontre la personne. Je vois un peu c'est quoi son style de vie, puis j'identifie après ça c'est quoi qui cloche. Après ça, on va déplacer des choses, répartir les aliments différemment dans la journée, essayer d'intégrer des collations ou d'en enlever. Fait qu'on fait des modifications, puis des fois, ça ressemble au jeûne intermittent. Est-ce que je vais directement dire « OK, on va essayer le jeûne intermittent » ? Jamais. Ça arrive jamais. Des fois, on se ramasse là sans s'en rendre compte. Est-ce qu'il y a un type de personne qui va plus en avoir besoin? Je sais pas. J'ai envie de te dire, souvent, les gens pour qui ça ne fonctionne pas, c'est les gens qui ont une très grosse vie sociale. fait que, bon, on dit tout qu'on a des grosses vies sociales, mais les gens qui sont toujours au restaurant, qui vont aller bruncher, qui ont des gros soupers la veille, qui sont tout le temps en événementiel, là.
Mm-hmm.
Les gérants d'entreprise qui ont souvent des déjeuners d'affaires, des dîners d'affaires, ça peut moins bien fonctionner. Des fois, des gens qui vont travailler aussi de jour de bureau, puis qui ont une famille, ben c'est impossible pour eux. Fait que ça dépend aussi des gens qui sont autour. Peut-être, en parlant, ça me fait réfléchir, là, les gens qui travaillent de soir, de nuit, c'est peut-être ceux que j'ai le... Puis j'ai envie de dire plus de soir, là. C'est peut-être avec eux que j'ai eu le plus de cas de jeûne intermittent. Pas que je l'ai suggéré, mais qui m'arrive avec le jeûne intermittent. Fait que c'est les gens qui commencent à travailler à 3 heures puis qui finissent à 11 heures. C'est peut-être là que ça fonctionne le mieux. Les gens qui travaillent de nuit, je te dirais... c'est difficile. Ben, parce que l'horloge biologique est tellement déréglée.
C'est ça. Mais tu vois, je t'écoute parler, puis ça, dans le fond, c'est s'adapter à son quotidien. Comme tu m'expliquais tantôt, ça revient à ça.
Ben oui, puis la réponse est plate. Puis je le sais qu'elle est plate, la réponse. C'est plate de dire « on va s'adapter à ton quotidien ». Mais c'est ça l'affaire, c'est qu'il y a, s'il y avait une formule magique, on la suivrait tous, on serait tous en parfaite santé avec un parfait système immunitaire, tu sais, mais c'est pas le cas. Fait qu'il faut vraiment qu'on s'ajuste parce qu'on est tous tellement différents, tant dans notre personnalité que dans ce qui est autour de nous, là.
C'est vrai, mais écoute, on pourrait en parler longtemps, mais je voulais qu'on parle d'un deuxième point que moi, personnellement, ça me touche beaucoup, c'est le végétarisme.
Oui.
J'aimerais ça qu'ensemble, écoute, moi je suis pas un expert encore, mais j'ai expérimenté beaucoup là-dedans. Les types de végétariens, les végétaliens, en tout cas tous les types, puis leur définition, mais peut-être pas toutes, parce qu'il y en a pas mal, mais leur définition des grandes lignes un peu.
Ouais, ben c'est drôle que tu me demandes ça parce que moi je donne un cours sur le végétarisme, c'est un cours que je donne à la longueur d'année. Puis, c'est notre premier cours. On peut-tu faire du ménage là-dedans? Fait que, je te dirais les trois plus grands genres. Mettons, là, on va avoir, tu sais, quelqu'un qui est carrément omnivore, qui va manger des plantes et des produits animaux. Puis après ça, si on va sur une ligne du temps, ou si on veut, si on échelonne ça, on y va graduellement, bien, j'ai la personne qui va éliminer la viande rouge. Souvent, ça va être plus comme un flexitarien. Quelqu'un qui va continuer à manger de la viande, mais qui va surtout éliminer la viande rouge, ou bien quelqu'un qui est végétarien, mais que dans les occasions, il va aller consommer de la viande parce que c'est plus simple comme ça.
Mais il n'y a pas de flexitarien, c'est pas comme 50% je suis végétarien, puis 50% je mange de la viande. C'est vraiment quelqu'un qui, occasionnellement, il va prendre des produits animaux.
Oui, puis encore là, la définition n'est pas tout à fait claire pour les flexitariens. Là. Je veux dire, oui, ça peut être
c'est ça.
Mettons qu'il habite chez sa mère qui va manger végé, mais que chez son père qui mange plutôt carnivore là, ou omnivore, puis ben, ça se trouve être 50-50. Il n'y a pas de définition parfaite, mais c'est ça. C'est dans les...
OK.
On touche aux deux sphères. Après ça, ben là, en plus d'éliminer la viande, il va y avoir les gens qui vont décider d'éliminer peut-être les œufs, les gens qui vont décider d'éliminer le lait ou le poisson ou les trois. Fait que là, on va avoir un lacto-pesco-ovo-végétarien.
Un quoi?
Je ne la répéterai pas. C'est toute une bouchée là, de dire ça.
Faut le dire vite, comme ça, ça passe inaperçu.
C'est ça. Fait que quelqu'un qui prend du lait, des œufs et du poisson ou qui élimine un ou l'autre ou les trois, là, le mot végétarien, c'est...
Mm-hmm.
Il se précise. Après ça, j'ai vraiment plus les gens qui sont végétariens à proprement dit, qui vont éliminer vraiment justement les trois catégories. Puis là, ben, je peux aussi décider d'éliminer tous les sous-produits d'animaux finalement. Donc le miel, entre autres, on va aller plus vers quelqu'un qui est végétalien à ce moment-là, où on entend beaucoup vegan en ce moment. Puis il y a aussi, il y a être végétalien au côté bouffe, mais aussi être végétalien ou être vegan côté style de vie aussi.
Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça la différence entre végétalien et vegan. C'est vegan, c'est tu portes pas de cuir, tes vêtements sont pas faits.
Oui, effectivement, ça se peut là, qu'il y ait une précision de ce côté-là.
Oui, vegan, c'est comme un mode de vie. Végétalien, c'est plus l'alimentation. Mais pour préciser quelque chose, végétarien, moi, j'ai souvent des gens qui me disent « poisson, c'est végé ». Tu sais, mais c'est pas végétarien, hein, le poisson?
Bien, encore là, ça dépend. Est-ce que la personne, elle est pesco-végétarien? Donc, elle mange surtout des plantes, mais elle intègre aussi le poisson.
OK. Pesco-végétarien, ça.
Pesco-végétarien, oui. Fait que, est-ce que le poisson, c'est végétarien? Théoriquement, c'est un animal, mais c'est pas un mammifère. Fait que là, tu sais, il y a tout ce débat-là aussi.
OK.
C'est pour ça qu'un végétarien peut avoir là, soit le lait, soit les œufs, soit le poisson.
OK. OK. Puis, on parle de tout ça, là, mais on est surtout les deux. Ben, tu sais, moi, je suis un amateur, mais toi, t'es plus sérieuse là-dedans. On est les deux dans le sport. Puis là, la question qui revient tout le temps, c'est quoi les sources de protéines végétales?
Ouais, puis sûrement que tout le monde ici a écouté le documentaire Game Changers, mais
J'espère, sinon allez l'écouter.
ouais, c'est ça. Mais en fait, puis c'est intéressant parce que dans ce documentaire-là, il mentionne un peu justement c'est quoi les sources de protéines. Il y a des petites erreurs, par exemple, dans le documentaire. Fait que mettons entre autres le beurre d'arachide. Honnêtement, on a peut-être entre 8 et 15 grammes de gras, puis 2 à 4 grammes de protéines. Là. Fait que rendu là, est-ce que c'est une source de protéines? Oui. Est-ce que c'est un substitut de viande? Pas vraiment. Fait qu'il y a cette différence-là qu'il faut faire là, entre protéines et substitut de viande. Dans ce qu'on connaît le plus, évidemment, il y a le tofu. Si
Ouais.
je vais dans les déclinaisons du soya, à ce moment-là, il y a les fèves des damanes. Qui sont comme les petites fèves, comme quand on va dans les restaurants japonais, mettons, là, les
Les
petites
petites
fèves vertes.
fèves vertes, c'est ça.
Exactement. Il y a aussi, ça se vend décossé en passant, là, tu sais, souvent on les mange,
Ouais, déjà.
faut les enlever, là, mais ça existe congelé, là, puis toute l'écorce est enlevée, là. Fait que c'est pratique à cuisiner. Il y a aussi, évidemment, le tempeh. Donc, le tempeh qui est une fève de soya, mais ça va être pressé. Plutôt que d'être homogène. Là. Fait qu'on va vraiment pouvoir discerner visuellement la fève de soya, puis c'est ensuite fermenté.
Puis
Fait
là,
qu'on va chercher un goût plus de noisette, mettons.
ouais, c'est ça, le tempeh, c'est plus côté noisette. Puis c'est plus. Personnellement, je trouve ça un peu plus raide que le tofu aussi, là, en bouche, là, quand t'es pas habitué au tempeh, c'est quelque
Tu
chose.
vois, moi, je trouve que c'est l'inverse. Je
Ah
trouve
ouais?
que le tempeh, ça prête mieux, puis parce que je trouve que la texture s'apparente plus à de la viande. Je trouve
C'est vrai,
que
ça
je vais
va
moins chercher le côté caoutchouteux.
être.
Fait
Ouais.
que c'est très, très personnel, mais les gens qui me disent j'aime pas le tofu, attends, goûte au tempeh. Puis il y a une
Non.
façon de l'apprêter aussi, là, je veux dire.
Ben oui, c'est sûr que là, la marinade joue pour beaucoup dans ces protéines-là. Mais il y a aussi, toi, les sources protéines, dans le fond, les pois chiches puis tout ça, est-ce qu'on considère ça comme une protéine végétale ou c'est.
Oui, les pois chiches, ça va compter comme une protéine végétale. Tu sais, chaque protéine n'est pas égale en soi, là. C'est-à-dire que, tu sais, entre autres, le poulet, ben, il y a du gras dedans. Si je mange la peau avec, ben, il y a plus de gras. Fait que c'est un peu la même chose pour le pois chiche. Il n'y a pas de gras, mais il y a des glucides dedans, par exemple. Fait que
OK.
la protéine n'est pas seule, là. Il y a d'autres choses avec.
Les glucides.
C'est correct aussi. Qu'il y en ait des glucides dedans.
Puis, qu'est-ce que tu. Ben là, juste avant, je veux juste revenir sur le tofu puis le tempeh parce que ça vient de me popper, là. Le fameux débat sur le soya.
Ah,
Je ne
ouais.
sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, mais
C'est sûr. J'ai
c'est.
tout vu, tout entendu, je suis sûre. Non, c'est pas vrai. Mais
C'est vrai ou c'est un mythe ou
tu parles
ben, c'est bien ça.
avec les estrogènes puis tout ça?
Ouais, exact, c'est ça. Que pour les hommes, ça peut développer des mamelons ou quoi que ce soit, là. En tout cas, qu'il y a trop d'estrogènes puis que c'est pas bon trop en prendre.
Mais c'est un mythe qui est très présent dans le CrossFit, énormément. Puis je suis jamais allée jusqu'au bout de ça, voir c'est qui promouvoit ça. Non, c'est vrai. Mais je suis jamais allée voir de où exactement ça provient. Mais c'est sûr que clairement, je veux dire, si ça avait vraiment les propriétés mentionnées dans ce mythe-là, il y aurait pas mal plus d'hommes avec des seins.
Ouais, ben c'est ça.
Non, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'il faut en manger des quantités astronomiques pour vraiment avoir les impacts hormonaux qui sont mentionnés par ce mythe-là. Il n'y a pas de problème. Oui, il y a des contre-indications à en prendre, entre autres là, chez les femmes qui ont des antécédents de cancer du sein, soit elles-mêmes ou dans la famille, mais il n'y a aucun problème là, d'intégrer du soya dans son alimentation.
C'est ça, parce que sur Instagram, j'avais vu un influenceur aux États-Unis qui était vegan puis qui faisait du bodybuilding. Puis il avait fait un défi de comme pour enlever ce mythe-là, de manger un bloc de tofu par jour pendant 30 jours.
Puis,
Puis ben, je sais pas si c'est vrai, là. En tout cas, on le voyait, il documentait tout ça, puis il n'y a rien eu, puis il n'y a pas eu de mamelon ou quoi que ce soit, là. Il a gardé la même shape puis tout.
je pense aussi que c'est pas sur un mois qu'on verrait des changements, là.
Non, mais c'était à
Mais
chaque
faut penser
jour.
que, ouais, mais tu sais, c'est ça. Faut penser que les hormones, là, c'est des doses massives, là, qu'on donne à quelqu'un pour changer ses hormones. Fait que, et c'est pas un aliment qui va changer ça. Il faut penser aussi qu'il y a tout le processus de digestion en arrière de tout ça. On mange ça avec d'autres aliments. Fait que non. il n'y a pas de danger.
Fait que là, pour récapituler, excusez, il y a le tempeh, le tofu, les pois chiches qu'on a parlé, mais que là, il y a un peu de glucides.
Les légumineuses,
c'est ça, dans le fond. Il y a, est-ce que les lentilles, ça fait partie des légumineuses?
Lentilles et légumineuses, ouais, on les met dans le même pot.
OK. Puis, il y a aussi, on en avait parlé ensemble avant.
Il y a la PVT aussi.
C'est
la
ça. Celle-là, il fallait que je prenne des notes. PVT?
La PVT, dans le fond, c'est la protéine de soya qui a été isolée. OK? Fait qu'on a vraiment juste de la protéine ou presque. Visuellement, là, moi, je dis toujours, ça ressemble à un sac de cornflakes que j'ai pilé dessus. C'est vraiment des tout petits grains. C'est sec, donc c'est déshydraté. Fait que pour l'utiliser, il faut que je le réhydrate. OK?
OK.
Ça va s'apparenter vraiment, là, une fois réhydraté, en termes de texture, puis même visuellement, ça va s'apparenter beaucoup à du steak haché. Donc, c'est énormément utilisé pour remplacer la viande hachée dans les recettes, entre autres tacos, sauce à spaghetti, pâté chinois. Fait qu'il faut la réhydrater. La recette, c'est une tasse de PVT pour 7/8 de tasse de liquide chaud.
7/8 de tasse de liquide chaud, ça, c'est précis.
Dans le fond, tu remplis une tasse, là, puis tu t'enlèves les deux. À peu près ça. Il faut que ça soit chaud pour le réhydrater, mais puis après ça, tu couvres ça 10 minutes, puis ça gonfle, puis après ça, tu peux l'utiliser dans ce que tu veux. C'est super le fun parce que ça se vend en vrac ou vous pouvez l'acheter aussi dans des genres de sacs, genre transparents, là, dans l'allée bio sans gluten à l'épicerie. Mais ça se garde à température pièce, puis ça se garde longtemps. Si c'est à l'abri de l'humidité. Fait que c'est comme on peut avoir une protéine sous la main tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que tu sais, là, les fameuses pâtes là, qu'on met de l'huile dedans parce qu'on n'a plus rien pour dîner, ben, je suis capable d'ajouter une protéine dedans super facilement.
Fait que c'est quand même facile de trouver des protéines végétales. Là.
C'est super facile. Puis tu vois, j'ai envie de dire, si je me mets à enlever le soya parce que j'ai peur au niveau hormonal, on est limité dans nos choix, là, côté protéines. Fait qu'à un moment donné, pour moi, il faut faire un choix dans... Pas dans ce qu'on croit, là, mais à un moment donné, il faut avoir un peu de lâcher prise parce que sinon, on ne mangerait rien, là.
Moi, j'avais fait un défi, pas vegan, mais végétalien, je vais dire, là, parce qu'on a parlé tantôt. J'avais des ceintures, fait que... puis j'avais fait un défi de 6 mois, puis... J'ai jamais eu de mamelon plus que d'habitude. Puis, tu sais, j'avais du tofu tout le temps, du tempeh, toutes les... Fait qu'en tout cas, c'est... Là, par exemple, j'ai comme réintégré un petit peu. Pas d'œuf, pas de lait non plus, mais de temps en temps, je vais comme on a parlé, je vais prendre une pizza, mais juste avec du fromage, pas de viande dedans. Ou si j'ai de la viande, je vais la rajouter chez moi ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, c'est intéressant. Puis là, je trouvais que, tu sais, c'est parce que la pizza, c'est mon... cheat meal préféré, fait que c'était difficile, ça me manquait un peu dans le défi de 6 mois.
Mais tu sais, je pense que, je trouve ça super intéressant ce que tu dis, je pense qu'il faut pas se punir avec la façon qu'on s'alimente. Tu sais, toi, tu t'identifies beaucoup au mode de vie végétarien, c'est parfait, mais il faut faire attention, par exemple, si ça t'enlève tes plaisirs, puis que tu as de la difficulté à trouver un fromage végétalien qui remplace, puis que t'es malheureux parce que tu manges pas de pizza, on n'est pas plus avancé, là. Fait que la notion de plaisir est super importante dans l'alimentation.
Mais c'est ça, puis tu sais, on en reparlait, puis j'étais comme vraiment, me sentais coupable, là, tu sais, de prendre, récemment, là, puis là, tu sais, tu me dis, c'est plus, tu sais, on s'en fout du terme, là, végétalien ou quoi que ce soit, tu sais, tu vas être plus heureux si tu prends ce que t'aimes, puis après ça, tu te sens pas coupable, tu sais. Puis, tu sais, on le voit le lendemain aussi, tu sais, mettons, je vais manger de quoi, puis comme une pizza, puis je me sens coupable, je vais être comme bloaté, là. Puis tout ça, c'est quand même relié au cerveau. En tout cas, c'est fou ce que ça fait, l'alimentation. Moi, je trouve ça fascinant. Puis, je vais enchaîner avec les nutriments manquants.
Ouais, OK.
Pour l'alimentation végétale.
Il y en a une coupe. Là, il y a des manipulations qu'on peut faire là, pour ne pas en manquer. Il y en a beaucoup, mais encore là, c'est pas parce qu'on est végétarien ou végétalien qu'il nous manque quelque chose. Tout dépend de l'alimentation. Des fois, je vais évaluer des végétariens, puis il n'y a absolument rien qui manque. Donc, il faut faire attention quand on dit carence là, ou manque de vitamines minéraux. C'est sûr, il faut faire attention à la vitamine B12, qu'elle, on retrouve presque exclusivement dans les produits animaux. Fait que ça, c'est un petit truc à garder en tête. Là. Souvent, c'est lui que je vais regarder en premier. La B12, on est chanceux, on en retrouve dans un petit peu les boissons végétales, mais la principale source, là, je vous dirais, c'est plus dans la levure nutritionnelle.
Ah oui?
Donc, tu sais, pas la levure alimentaire, pas celle qu'on utilise pour faire du pain. Mais vraiment, là, ça se vend en sac à l'épicerie, encore là, dans la section comme bio sans gluten. Puis, c'est comme un petit flocon jaune.
Ça goûte un peu le fromage aussi.
Oui. Il y en a qui disent les noix aussi. Ça dépend des gens. Mais oui, il y en a beaucoup qui vont l'utiliser, là, mettons, pour mettre sur du popcorn nature, pour venir lui donner un goût sans aller chercher nécessairement le beurre lui-même. Puis, on vient donner comme un goût de fromage. Fait que le popcorn, il goûte quelque chose, mais...
Fait que si on prend ça, on n'a pas nécessairement besoin de supplémentation des pots de B12.
En B12, non, c'est ça exactement.
OK, OK.
Parfois, je vais avoir des clients qui vont avoir quelques petites intolérances, là, j'ai envie de dire, au niveau de la B12. La levure nutritionnelle, ça peut occasionner, surtout quand on n'est pas habitué, quelques petits ballonnements. Il y en a qui sont plus sensibles à ça. Mais sinon, si vous en avez dans votre alimentation, effectivement, il y a moyen, là. Tu sais, il y a moyen de manger végé sans avoir aucun supplément alimentaire, là.
OK, OK.
Ouais, ouais.
Puis, dans le fond, je sais pas, quand toi, tu fais tes conférences, tes ateliers sur le végétarisme, c'est quoi les ressources que les gens peuvent un peu plus s'informer sur le sujet?
J'aime beaucoup le site web de l'Association végane de Montréal.
Ça, c'est VG Montréal, là.
Ouais, ouais, c'est comme AVM.
Ouais, ouais.
Et là, je me rappelle pas si c'est .org ou en tout cas, c'est l'Association végétarienne ou végane de Montréal. Mais en tapant ça sur Google, ça va vous sortir automatiquement. J'aime beaucoup ce site web-là. Sinon, écoute, il y a tellement de ressources, là, ça n'a pas de bon sens. J'aime beaucoup utiliser aussi tous les blogs de nutritionnistes qui confectionnent des recettes végé. Je trouve qu'il y a des bijoux là-dedans. Vraiment, souvent, les gens vont me demander des idées de recettes. Là.
Mm-hmm.
Ça va être beaucoup ça. J'aime beaucoup la cuisine de Jean-Philippe pour ça, pour manger comme pareil comme tout le monde, mais de façon végétarienne. Il y a un super livre qui s'appelle « Ménager la chèvre et manger le chou ». C'est écrit par deux nutritionnistes.
« Ménager la chèvre et quoi? »
Et « Manger le chou ». C'est sorti en 2018 ou 2019. Puis... en fait, j'ai même pas eu la chance de le feuilleter. Là. C'est vraiment une amie qui m'en a parlé. Puis une de mes participantes dans un de mes cours. Il est super complet, le livre. Ça a l'air qu'il y a beaucoup d'informations au niveau de justement des types de protéines, de ce qu'on de ce qu'on pourrait manquer, etc. Fait que beaucoup d'informations. Si je ne me trompe pas, il y a des recettes dedans aussi.
OK, fait cool.
Intéressant à les feuilleter là, si vous avez la chance à la bibliothèque. C'est dans ma liste de livres nutrition, ma to-do list à lire, mais...
Mais c'est vrai que tu as parlé de l'Association VG ou végane de Montréal. Puis moi, j'avais été à l'Expo Santé l'année passée. Puis j'avais pris quelques... J'ai ici, là. J'avais pris quelques dépliants, là, de... Ils ont fait comme des feuilles de source de calcium, source de protéines, source de fer. J'ai trouvé ça vraiment intéressant de prendre le temps de faire ça, tu sais, pour donner au public, parce que... Quelqu'un qui ne sait pas pantoute, là, prend ces dépliants-là qui sont sur leur site et qui font comme bon. Fait que là, mettons, je vais me faire un souper. Fait que là, tu as tous les trucs que tu peux avec le nombre de grammes de protéines. En tout cas, c'est complètement fou. Ils ont même fait une liste d'épicerie pour ceux qui sont.
Ah, je n'avais pas vu la liste d'épicerie encore. Ça, c'est cool.
Ouais, ils ont fait une liste d'épicerie, tu sais, classée comme en catégorie de déjeuner, après ça, des collations, après ça, les légumes, en tout cas. C'est complètement fou. Je pense qu'il y a toute une grosse documentation intéressante à aller voir là-dessus.
Oui, oui. Puis d'après moi, si vous allez voir sur le site web, vous allez les trouver, ces infographies-là. Puis ça m'amène à dire aussi, les étudiantes en nutrition de l'Université de Montréal ont sorti un guide, ça s'appelle « Viens manger, introduction au végétarisme ». C'est un guide PDF en ligne qui est gratuit.
« Viens manger ».
Super intéressant, vraiment, vraiment. Il y a plein de recettes. Il y a de l'information aussi, justement, sur un peu ce qu'on vient de discuter. Là, finalement, c'est quoi les fameuses définitions, un peu comment s'y retrouver, c'est quoi aussi les petites choses qu'on pourrait manquer. Puis bon, tu sais, exemple, là, des avantages côté économique pour ce qui est de manger végé. Là, vraiment, là, une belle mine d'or d'informations.
Puis là, souvent, là, tu as sûrement rencontré des gens aussi qui te posent la question. Végé, ça veut pas nécessairement dire santé.
Oui, on a tendance à penser que oui, mais tellement pas. Puis le meilleur exemple que je donne avec ça, c'est les fameuses boulettes Beyond Meat. Qui, tu sais, oui, ça, je veux dire, on a chacun le droit, je pense, peu importe la façon qu'on s'alimente, d'avoir quelque chose de rapide, d'avoir du fast-food littéralement dit, là. Fait que, tu sais, de pouvoir manger un burger sans passer 4 heures à confectionner une galette aux lentilles, puis j'exagère avec mon 4 heures, mais il faut quand même prendre le temps de le faire. Si je veux manger végé, puis je veux manger différent, pas toujours manger des cubes de tofu sauté, il faut que je prenne le temps quand même de cuisiner. J'ai envie de dire, c'est un des avantages du végé, c'est le fun de cuisiner plus. Par contre, dans le quotidien, j'ai envie de dire qu'on avait en 2019, là, en 2020, c'est peut-être un peu moins vrai, mais dans notre quotidien super occupé, on n'a pas nécessairement le temps de cuisiner autant. Fait on a le droit d'avoir des boulettes rapides. La seule chose, c'est que je vais avoir plus de sel, je peux avoir autant de gras.
C'est ça, hein?
Ça peut être ultra transformé très facilement. Là, ouais.
Parce que j'avais lu aussi même que les boulettes qui remplaçaient un petit peu le steak haché pour les hamburgers, je n'aimerais pas de compagnie, là, mais on les connaît. Là.
Moi, j'en ai nommé, mais...
Tu t'es aventuré dans quelque chose, là. Puis, j'avais lu qu'il y avait comme, pour faire comme un petit peu le sang, là, que le liquide qui coule, il avait pris du jus de canneberge. En tout cas, c'était complètement fou ce qu'il y avait dans ces boulettes-là.
Ah, ouais.
Ouais. Puis, en tout cas, moi, j'étais comme, bah, tant mieux, tu sais, du jus de canneberge, c'est bon. Mais là, ma question, c'est pour toi, est-ce que toi, tu vas plus considérer une boulette de viande hachée, n'importe quelle affaire hachée, de viande, je veux dire, ou le substitut transformé.
Qu'est-ce que tu veux dire si je vais le considérer?
Mais mettons, c'est quoi ton choix, toi, personnel? Est-ce que tu vas, pour la santé, c'est-tu mieux de prendre un hamburger avec de la vraie viande ou un hamburger avec, on va dire, la boulette Beyond Meat?
Hey, ta question est tellement intéressante, là. Ça, c'est tellement un choix personnel, comme tu dis. Personnellement, moi, je vais aller vers la boulette de viande réelle.
C'est ça, OK.
Pourquoi? Parce que pour moi, c'est important de manger le moins transformé possible pour ma santé. Moi, je suis moins inquiète de l'aspect viande, là, finalement, l'aspect viande rouge. J'en mange pas à tous les jours, j'en mange même pas à toutes les semaines. Fait que si j'ai à en manger une boulette de viande, ça va être la vraie, plutôt que de manger transformé. Par contre, il y en a qui sont plutôt inquiets côté viande animale, puis qui vont préférer manger... un peu plus salé, puis d'avoir une boulette qui est façonnée en usine, là, un peu.
C'est ça, mais
c'est un choix personnel, là.
C'était plus, mettons, comme tu as répondu en premier, santé, là. L'objectif numéro un, c'est santé. Donc, ça serait de privilégier la viande à la boulette, à la Beyond Meat.
Mais
tu vois, moi, dans mon cas, moi, je vais privilégier la Beyond Meat parce que j'ai des enjeux plus grands que, mettons, je trouve que les animaux, en tout cas, j'en parlerai pas là, mais l'environnement et les animaux, c'est ça n'a aucun sens que ce qui arrive. Fait que moi, tu vois, ça, c'est plus fort que je vais me dire, OK, gars, je vais prendre cette boulette-là pour pas avoir à participer à toutes ces gamiques-là, que je dirais. Là. Moi, ce point-là,
il est plus fort,
c'est ça. Mais la question que je te demandais, c'était vraiment d'un point de vue santé, là. Comme les gens qui nous écoutent ne sont pas végés, mais ils veulent un savoir au point de vue santé. Puis je pense que tu as bien répondu.
Oui, mais tu sais, en même temps, d'un point de vue santé, je vais avoir quelqu'un qui fait de l'hypertension. Puis de l'autre côté, fait qu'il ne faut pas qu'il mange salé. Donc, on va
utiliser
la boulette Beyond Meat. Mais je vais avoir quelqu'un qui mange énormément de viande rouge dans sa semaine déjà. Puis puis on sait qu'il faut diminuer la quantité de viande rouge, entre autres là, pour les risques de cancer colorectal et tout ça. Puis qu'il y a des antécédents peut-être dans la famille de cancer colorectal ou bien qui, tu sais, en tout cas, peu importe la raison, il y a toujours une raison pour choisir un ou l'autre. Fait qu'il faut, encore là, personnaliser selon les conditions de santé. Mais bon, si vous mangez pas beaucoup de viande dans la semaine, je pense quand même que le choix est à faire pour la viande régulière. Mais il y a un bel article à ce sujet si vous voulez aller voir, pousser un peu plus loin. C'est Science et Fourchette, c'est un blog. c'est une nutritionniste qui s'appelle Annie Ferland. Puis elle, c'est un peu son trip là, de débunker, j'ai envie de dire, un super bel anglicisme, débunker des mythes comme ça. Fait que si vous avez envie de... Peut-être que si vous êtes plus visuel, elle a fait comme un tableau de valeur nutritive, etc. C'est super intéressant.
Fait que dans le fond, là, ce que je retiens d'aujourd'hui, là, c'est vraiment que c'est personnel à chaque personne. Là. C'est de s'adapter au quotidien. C'est de respecter le 80-20. C'est vraiment de personnel. Là. C'est essai-erreur, dans le fond. Là. Toute la nutrition, c'est du essai-erreur. Puis ce qui te convient bien me convient pas nécessairement bien, tu sais.
Excuse-moi. Non, oui, exactement. Ce qui te convient à toi ne convient pas nécessairement à moi.
Fait que c'est ça.
Exactement.
Puis est-ce que tu as le temps qu'on prenne... j'ai fait un post pour avoir des questions des gens sur la nutrition. Là, je les ai notées sur mon cell. Parfait, si tu as le temps, on va en prendre... on va y aller, puis combien de temps ça prendra? Moi, j'ai le timer, anyway. Je vais y aller avec Jonathan Marcotte qui a demandé ton point de vue sur le bio. Dans le fond, quel aliment vaut le plus la peine de payer plus cher pour avoir du bio vu qu'une épicerie complète en bio, ça coûterait pas mal trop cher?
Oui, une épicerie complète en bio, ça coûterait vraiment trop cher. Fait, ce qu'il faut savoir sur les aliments biologiques, effectivement, il y a des choses qui valent plus la peine que d'autres d'acheter. Pour moi, ça reste dans les fruits et légumes. Est-ce que je m'aventurerais vers des craquelins bio, tout ça?
Okay.
Je suis pas sûre. Je pense que le point principal, c'est d'aller vraiment plus côté fruits et légumes.
Okay.
Encore là, dans les fruits et légumes, il y en a qui sont pertinents à acheter bio, d'autres moins. Fait qu'il s'agit de voir. Souvent, je vais conseiller au plus simple à mes clients, tu sais, les aliments qui contiennent une pelure que vous mangez, c'est peut-être un petit peu plus intéressant d'aller chercher le bio à ce moment-là. Il y a un super site web. Je suis plein de références. Là. J'espère que
mais
tu vas
non,
voir.
Mais moi, j'ai les notes. Là.
Mais c'est EWG.org. Puis eux, à chaque année, ils font une liste des produits qui sont les plus élevés en pesticides.
OK.
Fait que c'est un top 12. Là, cette année, entre autres, là, j'ai ma fenêtre.
Jonathan, j'espère que tu es en train de noter ça.
Oui, écris ça. Mais tu peux aller voir si tu veux. Fait qu'entre autres, là, ils ont dénoté cette année en 2020 les fraises, les épinards, le kale, les nectarines, les pommes, les raisins, etc. Fait qu'on voit que c'est un peu plus axé dans les fruits, mais tu pourras aller voir.
OK, non, mais c'est un bon conseil. Même pour moi, je le prends. Là, c'est... Puis, Jonathan, il y a une autre question qui dit sur quel aspect de la psychologie et comment on devrait. La travailler cet aspect pour réussir à adapter des saines habitudes alimentaires.
Sur quel aspect de la psychologie on doit travailler pour avoir des saines habitudes alimentaires?
Oui, tu sais, pour. Je pense que ce qu'il veut dire, c'est que, mettons, tu sais, quand on va dire je vais me gâter, là, puis qu'on va au restaurant, puis que là, on se bourre, puis que là, finalement, on regrette, bien, c'est quoi l'aspect psychologique qui dit, tu sais, y aller. Pas autant que ça, mais juste comme un petit peu. Je sais pas si tu comprends, dans le fond,
Je sais pas, mais si Jonathan, tu as d'autres questions et ça répond pas à ta question, tu m'écriras. sur quel aspect de la psychologie? C'est difficile à dire parce qu'en nutrition, on n'est pas formé pour accompagner à 100% nos clients en psychologie. Okay? Fait qu'on travaille quand même étroitement avec des psychologues dans différents cas. Je te dirais, c'est sûr que pour un changement d'habitude de vie, il faut y aller graduellement. Fait que quand on a trop des bonnes intentions, qu'on est trop intense, des fois, ça ne fonctionne pas. Ça arrive souvent qu'il faut que je calme mes clients pour qu'on y aille progressivement, pour progressivement changer les habitudes de vie.
Okay.
C'est plus ou moins psychologique, là, c'est plus une question d'approche, mais aussi de tout l'aspect culpabilité. Ça, c'est un aspect psychologique qu'on travaille énormément en cabinet, parce que on ne devrait pas avoir de culpabilité sur l'alimentation. C'est le fun de manger, c'est plaisant, mais il y a plein de différentes raisons pourquoi les gens se sentent coupables. Il faut aller défaire ça un petit peu. Là.
Mais ça peut être aussi, je ne sais pas si c'était ça sa question, mais pour un petit peu plus psychologique, quand tu es stressé ou anxieux ou quoi que ce soit, souvent, je ne sais pas, peut-être pas moi personnellement, j'ai pas porté attention, mais souvent les gens ils vont comme aller manger plus de sucre, plus de restaurants, ou je pense
Oui, la gestion des émotions.
C'est ça, mais c'est...
Effectivement. C'est un point qu'on fait beaucoup aussi. Ça touche un peu à la culpabilité dans le même sens, parce que souvent, les gens, mettons, sont stressés, arrivent une grosse journée de travail, ça va pas bien avec le conjoint.
C'est ça. Fait qu'on se réfugie dans la bouffe, puis là, on sécrète. J'imagine que je pense, avec ce que je sais, c'est qu'on va avoir comme un rush de dopamine qu'on a de besoin, tu sais. Mais sur le moment, après ça...
Ben oui, sur le moment, il y a clairement quelque chose qui se passe. Et ce, peu importe le mécanisme, qui fait que la personne a besoin de se réconforter. On travaille beaucoup sur l'aspect psychologique de dire, ben, c'est quoi les autres outils que tu peux mettre dans ton coffre à outils pour gérer ce stress-là ou cette frustration ou, tu sais, depuis qu'on est tout petit, on mange émotivement, là. On a eu un beau bulletin à l'école, papa, maman vont nous amener manger de la crème glacée, bravo.
Mais comment on arrête ça avec... Comment, là, on garde ces habitudes-là rendues adultes, mais comment si on veut se débarrasser de ces habitudes-là?
Mais c'est un travail super progressif. Souvent, je vais faire un tableau à mes clients. Je vais dire, qu'est-ce que tu as mangé que, selon toi, là, c'était émotif? C'était pas parce que tu avais faim. Okay? Ah, fait que là, on revient un peu à l'aspect de faim de satiété tantôt, là.
Ouais.
Tu n'avais pas faim. Tu avais le goût de manger, par exemple. Là, je leur demande, bien, OK, tu es en train de faire quoi? C'est quoi le contexte? Est-ce que tu viens de raccrocher avec ta mère au téléphone puis vous avez une chicane? C'est quoi le contexte? Puis après ça, bien, qu'est-ce que tu as mangé? Après ça, moi, je veux savoir, bien, OK, comment on peut régler le contexte? Comment on peut... Si tu es fâché, on va aller parler à quelqu'un d'autre pour te calmer. Tu vas aller marcher, tu vas aller courir, tu vas faire de la méditation, tu vas... Il y a plein de moyens pour gérer cette émotion-là, cet aspect psychologique-là qui cause à manger. Mais c'est pas parce qu'on fait ça, cet exercice-là, une fois que ça fonctionne. Souvent, je vais travailler ça pendant des mois et des mois.
C'est ça, mais c'est de prendre conscience en premier que qu'est-ce que tu manges émotivement, dans le fond. C'est de s'en apercevoir en premier. Puis après, c'est de se dire, OK, c'est de créer la discipline pour se dire, OK, là, je sais que je mange avec émotion, fait que non. T'sais, ou...
Exact.
OK. Parfait. J'espère que ça a répondu à ta question, Joe. Troisième question, Marco. Marco veut savoir les bienfaits des acides gras oméga-3 sur notre cerveau.
Oui. Bien, évidemment, on sait que ça a un impact sur la concentration. Il y a toute une histoire au niveau, dans le fond, des neurotransmetteurs. Là, je ne rentrerai pas là-dedans. Qui font qu'on peut avoir une meilleure concentration, une meilleure connexion au niveau du cerveau. Fait que je te dirais, il y a ça. Il y a tout un aspect aussi au niveau de l'Alzheimer, puis ça, c'est loin d'être ma spécialité. Je suis plus en nutrition sportive. En nutrition sportive, on parle beaucoup de diminuer l'inflammation avec les sources d'oméga-3.
Okay.
Donc, on joue un peu là-dedans. Souvent, on va aller chercher en masse d'oméga-3 avec les poissons gras, entre autres le saumon, les sardines, ou bien aussi avec les graines de lin, les graines de chia. Fait qu'il y a tout à fait moyen d'aller en chercher suffisamment dans la nourriture. Mais sinon, ça va arriver que je vais recommander des suppléments aussi,
okay.
Toujours selon le cas, là.
Parfait. Puis, dernière question. Nathalie qui demande, végétarien, selon toi, pour ou contre? Et pourquoi? Mais je pense que ça revient...
Ça serait gênant de dire contre, hein, devant toi. Non, c'est pas vrai.
Non, mais tu peux le dire, c'est correct. C'est personnel à chaque personne.
Non, mais bien honnêtement, je suis tout à fait pour, vraiment. Je trouve que c'est une belle façon de s'alimenter. C'est très satiogène aussi. Il y a beaucoup de fibres dans l'alimentation végétarienne. Fait qu'on a peut-être une meilleure sensation de satiété. C'est très démontré, il y a des très beaux aspects côté santé. On sait que les gens vont avoir souvent une meilleure santé cardiovasculaire, entre autres les gens qui sont végétariens. Tout l'aspect au niveau des animaux, tu en as parlé brièvement. Je sais pas si tu as déjà fait un podcast à ce sujet-là, mais ça serait une bonne idée.
Ça s'en vient, je pense.
Il y a tout l'aspect aussi économique, bien entendu. Donc, c'est tellement moins dispendieux de manger végétarien. J'avais fait le test une fois de comparer une livre de steak haché qui peut nourrir à peu près comme 4 personnes versus des conserves de légumineuses qui peuvent aussi nourrir 4 personnes. Et on avait 3 fois le prix, là. Fait que la viande hachée vaut comme 3 fois plus que...
Oui. Ça, j'ai remarqué aussi avec les épiceries, là, il y a une bonne différence.
Fait que ça revient moins cher. Fait que je suis tout à fait pour une alimentation végétarienne. Je suis pas là pour la propager. Je suis pas là pour faire la propagande, mais oui, je la conseille fortement.
Parfait. Ben écoute, Amélie, pour vrai, merci beaucoup, là. Moi, en tout cas, c'est très enrichissant aujourd'hui. J'espère que les gens aussi ont trouvé ça enrichissant. Puis écoute, j'aimerais ça qu'on refasse ça, c'est sûr, si tu es disponible. Puis,
Ben oui, ça me fait super plaisir. Merci de m'avoir invité. Merci pour vos questions aussi, tout le monde. Mais oui, si vous avez d'autres questions, ça va me faire super plaisir de revenir.
Où c'est que les gens peuvent te rejoindre, ces réseaux sociaux ou...
Oui, Facebook, c'est Amélie Deschamps Nutritionniste. Sur Instagram, c'est Amélie D. barre en bas Nutritionniste. Vous pouvez me rejoindre aussi, bien évidemment, par mon courriel. Okay. Donc, c'est amélie.deschamps.nutrition@commercial.gmail.com.
Bien, merci beaucoup.
Ça fait plaisir.